les podcasts de Radio Vatican.
Le Moyen-Orient, théâtre d'affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est la clé de lecture souvent donnée aux différents conflits de la région, comme en témoigne encore l'actualité récente au Liban ou encore au Yémen. Mais derrière cette rivalité étatique se cacherait une rivalité religieuse entre les musulmans sunnites représentés par Riyad et les musulmans chiites défendus par Téhéran. Cette division historique remonte à la guerre de succession qui a suivi la mort du prophète Mahomet en 632, mais ce n'est que 9 siècles plus tard, en 1501, que la division a pris la forme d'un conflit géopolitique selon Laurence Louer, chercheuse au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po Paris. C'est en 1501, en effet, que le chiisme devient alors pour la première fois religion d'État pour les Safavides, une dynastie qui régna alors sur le territoire actuel de l'Iran.
Le clivage entre sunnites et chiites en tant que clivage politique remonte à mon sens au début du XVIe siècle, quand le chiisme est devenu la religion d'État en Iran, sous la dynastie des Safavides, et n'a pratiquement jamais cessé de l'être jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là où, au fond, le chiisme est passé du statut de simple religion communautaire au statut de religion officielle et d'idéologie d'État. Et à partir de cette période, les différents régimes qui ont gouverné ce qui correspond grosso modo à l'Iran d'aujourd'hui ont utilisé le chiisme comme outil d'influence à l'extérieur de leurs frontières.
Alors à côté des Safavides chiites, se présentait alors l'Empire ottoman sunnite. C'est ce clivage qui perdure encore aujourd'hui ?
C'est vrai que cette ligne de fracture entre ottomans et Safavides, elle se retrouve aujourd'hui à deux endroits névralgiques à mon sens. D'une part, c'est l'Irak, un pays qui a été construit par les Britanniques de la réunion de trois provinces ottomanes, et notamment la province sud de Basra, où passait cette ancienne ligne de clivage entre ottomans et Safavides, qui était habitée majoritairement par les chiites. C'est vraiment une première ligne de fracture qui explique, à mon sens, les difficultés de la construction nationale irakienne. Et puis, un deuxième point névralgique de cette fracture aujourd'hui, c'est la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Avec l'Arabie Saoudite prétendant donc incarner et défendre le vrai islam sunnite, et de l'autre côté, la République islamique d'Iran se présentant comme défenseur et protecteur des chiites.
Arrêtons-nous un peu sur le cas irakien que vous avez cité. Historiquement, comment expliquer les tensions entre les chiites et les sunnites dans ce pays ?
En fait, les tensions ont toujours été là, car l'État irakien est un État, comme le dit Pierre-Jean Luisard, qui s'est construit contre sa société. C'est-à-dire qu'il a toujours été dominé par la minorité arabe sunnite, qui n'a pas été capable d'intégrer la majorité arabe chiite, et puis ni non plus les Kurdes, qui sont majoritairement sunnites. Et il y a au départ une difficulté de l'État irakien à incorporer les chiites, qui étaient vus par les élites arabes sunnites, mais aussi par les Britanniques, qui étaient la puissance coloniale, comme des Iraniens incapables de loyauté à l'État irakien et comme au fond des étrangers qui relayaient l'influence d'un État hostile avec lequel il y a eu dès le départ des contentieux territoriaux notamment.
Et 2003, par contre, a marqué une sorte de rupture dans ce rapport.
Tout à fait, parce que 2003, bon, c'est la chute du régime de Saddam Hussein qui reposait sur la minorité arabe sunnite, si vous voulez. C'est la première fois qu'au fond, les chiites arrivent au pouvoir. Et là, il y a une espèce de retournement de la situation, si vous voulez. Le nouveau régime politique en Irak devenant le bras armé de la revanche des chiites contre les décennies de discrimination, de massacres de masse qu'ils ont subis. Et au fond, la difficulté maintenant pour ce nouvel Irak, c'est d'incorporer les sunnites en position satisfaisante dans les institutions. Donc il y a une espèce d'échec de la transition politique qui est dû à l'incapacité en fait à résoudre le conflit originel au centre de conflit qui a présidé à la naissance même de l'État irakien.
Mais quel est le problème de fond ?
Je ne pense pas qu'il y a des raisons doctrinales qui empêcherait une cohabitation relativement pacifique entre sunnites et chiites, en Irak ou ailleurs d'ailleurs. Donc vraiment sur le plan des dogmes, il n'y a pas d'impossibilité de la coexistence, puisque de toute façon on voit bien que, par exemple dans le cas du Liban, la coexistence a très bien fonctionné depuis des années. Je crois que vraiment le problème de la coexistence, en particulier dans ce pays qu'est l'Irak, c'est vraiment un problème plus général de citoyenneté et de gestion de la différence. En fait, un problème qu'on va retrouver dans la plupart des sociétés, c'est comment on va gérer ces rapports entre minorités, majorités, entre des normes dominantes et puis des normes minoritaires. C'est vraiment un problème de gestion de la différence religieuse, en l'occurrence.
Alors, cette cohabitation peut aussi être permise notamment par le fait que le modèle chiite irakien ne prend pas forcément le fait que le clergé gouverne directement le pays. C'est différent du modèle iranien. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette différence entre le modèle chiite irakien et le modèle chiite iranien ?
Il y a une très vieille rivalité, compétition entre l'école qu'on appelle de Najaf, située au sud de l'Irak, et puis la ville de Qom, qui est située au sud de Téhéran, en Iran. Les autorités religieuses dominantes à Najaf ne considèrent pas que le clergé chiite doit gouverner directement l'État. Que le rôle des clercs n'est pas de gouverner l'État, mais d'encadrer la société de manière à ce qu'elle respecte les principes de l'islam. On a une version tout à fait différente de l'autre côté, à Qom et puis en Iran, où la République islamique incarne vraiment un modèle de gouvernement théocratique où le clergé, ou en tout cas une partie du clergé, est au pouvoir. Et donc, on voit bien qu'au fond, le modèle iranien, c'est aussi une ligne de fracture au sein de l'islam chiite du haut des Sinaïs. Ce modèle a fait consensus juste après la révolution au début des années 80, mais très très rapidement, y compris au sein de la mouvance islamiste chiite, eh bien, des dissensions sont apparues sur ce modèle politique qui est en fait de plus en plus discrédité.
Parmi les pays dits du croissant chiite, il y a l'Irak, il y a l'Iran, mais on parle aussi souvent de la Syrie notamment. Les Alaouites qui sont au pouvoir sont qualifiés de chiites. Face à eux, il y aurait parmi les rebelles des sunnites. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'un conflit confessionnel en Syrie ?
Actuellement, on a tendance à lire le conflit syrien comme un conflit d'influence entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. En tout cas, ce conflit d'influence s'est greffé sur un conflit civil qui, au départ, n'avait rien à voir. Cependant, il ne faudrait pas avoir une lecture confessionnelle de cette ingérence iranienne et saoudienne. En fait, l'alliance très forte qui existe entre l'Iran et la Syrie depuis le début des années 80 est basée non pas sur des affinités religieuses, mais sur des intérêts géostratégiques partagés sur le conflit israélo-arabe notamment, mais aussi pendant très longtemps sur l'hostilité commune de la Syrie et de l'Iran à l'Irak bassiste, à l'Irak de Saddam Hussein. Et en réalité, idéologiquement, on pourrait dire que tout oppose le régime syrien, qui est un régime nationaliste arabe, socialiste, laïque, tandis que de l'autre côté, on a affaire à une république islamique. À cela, il faut ajouter que pour beaucoup de savants religieux chiites du haut des Sinaïs, les Alaouites ne sont même pas des musulmans.
Et qu'est-ce qu'on peut dire concernant le Yémen, un autre pays où l'Arabie Saoudite a récemment accusé l'Iran de soutenir la rébellion houthi zaïdite ?
Encore une fois, il ne faut pas avoir une lecture strictement religieuse de ce conflit. C'est un conflit politique. Et en réalité, les affinités doctrinales et théologiques entre le zaïdisme et le chiisme sont relativement ténus de nos jours, puisque depuis le XVIIIe siècle, les zaïdites du Yémen se sont sunnisés, hein, pour différentes raisons qui sont essentiellement des raisons politiques liées notamment à la volonté d'unifier les sunnites et les zaïdites au Yémen dans une espèce d'islam générique, si vous voulez. Eh bien, le zaïdisme s'est plus rapproché du sunnisme qu'il ne s'est rapproché du chiisme, et la guerre pourrait changer les choses, et notamment peut-être chiitiser les zaïdites ou une partie d'entre eux au moins, mais ce serait vraiment le résultat de la guerre, si vous voulez, et non pas une cause de la guerre.
Quelles pourraient être les solutions pour apaiser ce conflit ?
Alors, au niveau des différents États, c'est des mécanismes plus intelligents, plus ouverts, plus tolérants de gestion de la différence religieuse. Au niveau régional, et ça a un impact bien sûr sur le niveau national, c'est enfin, les Saoudiens et les Iraniens discutent entre eux, ils négocient une sorte de partage d'influence dans la région. Ils donc décident de faire de la politique et de la diplomatie plutôt que de faire la guerre. En tout cas, je crois qu'il est très important de se rappeler que l'Arabie Saoudite et l'Iran n'ont pas toujours entretenu de si mauvaises relations. Hein. Dans les années 90, juste après la guerre du Golfe, eh bien, il y a eu un rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en 1994. Et vraiment des années de rapprochement, d'échanges, parfois assez importants, qui ont notamment énormément contribué à apaiser les relations entre l'État saoudien et puis sa propre minorité chiite, qui est assez importante.
Est-ce qu'il y a des signes justement un peu de premier pas, de premier rapprochement même indirect ?
On pourrait peut-être lire le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Irak qui s'opère depuis le début de l'année 2007 comme un premier pas. Déjà, ça montre que le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, n'a pas de problème idéologique et religieux à parler avec des chiites, à négocier avec des chiites, puisque c'est bien lui qui a l'initiative de ce rapprochement, de la création d'un conseil de coopération saoudo-irakien. Donc il semble au fond être un leader assez pragmatique et prêt peut-être à entamer des négociations et des pourparlers directs. Disons qu'une implication saoudienne en Irak pourrait aller dans le bon sens si elle consistait au fond à faire la médiation entre les tribus sunnites irakiennes et puis le gouvernement irakien, dans la perspective de réincorporer au fond une composante très importante de la société sunnite en Irak dans le processus politique. Ça, c'est un premier point. Quant aux relations directes entre l'Arabie saoudite et l'Iran, elles peuvent être très facilement établies, ne serait-ce que par l'intermédiaire de leaders communautaire chiite saoudien, tout en sachant qu'il y a des tas de canaux de communication directe entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller chercher forcément des interlocuteurs en Irak. Si vous voulez, la question irakienne, la question de qu'est-ce qui va se passer après Daesh, et la question centrale, c'est bien comment est-ce qu'on va finalement incorporer ces Arabes sunnites qui se sont exclus à juste titre de la transition politique. Ça, c'est un des dossiers majeurs duquel les Saoudiens et les Iraniens devraient discuter.
Et une dernière question qui est liée à l'actualité, au regard de ce clivage géopolitique chiite-sunnite, mais qui dépasse un clivage religieux finalement, comment, selon vous, est-ce qu'on peut lire ce qui se passe actuellement au Liban ?
Écoutez, au Liban, depuis 2005, le clivage sunnite-chiite est devenu vraiment très structurant dans l'espace politique libanais. Ça n'avait pas toujours été le cas pendant très longtemps. C'était le clivage musulman-chrétien qui prédominait. C'est compliqué de connaître exactement les tenants et les aboutissants de la crise actuelle, c'est-à-dire la démission de Hariri. Il semble que c'est été une démission forcée par les Saoudiens qui serait peut-être plus liée au réseau d'influence saoudiens dans lesquels le Premier ministre Saad Hariri est impliqué, plus que vraiment l'enjeu des relations avec Téhéran.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.